Bonjour à tout le monde. Je suis très heureux de vous retrouver après mes congés. Donc voilà, on a passé des très bonnes vacances en Tunisie en famille. Et j'en profite pour vous transmettre les salutations de l'église réformée de Tunis que je suis allé voir. Ça ressemble vachement à chez nous. Et voilà. Et puis même, j'ai rencontré un pasteur là-bas qui connaissait vos vers. Bref, le microcosmos chrétien. Je vous avais laissé dans l'évangile, non pas dans l'évangile, dans la première lettre de Jean, au chapitre 4. Donc c'est là que nous reprenons. Alors, les particularités des prédications textuelles où on suit le texte de dimanche après dimanche, c'est que des fois ça nous emmène dans des sujets inhabituels. Et ce matin, nous tombons sur un sujet inhabituel. Donc 1 Jean, chapitre 4. Et nous lirons les versets 1 à 6. Et comme question préambule, je vous poserai cette question. Êtes-vous des conspirateurs? Ah non. On verra qu'à la fin de cette prédication, c'est peut-être dommage que vous ne soyez pas des conspirateurs. Mais peut-être pas dans le sens de conspiration que vous entendez. Prions. On veut plonger dans ta parole, Seigneur, et nous te demandons que l'Esprit Saint nous anime, nous habite, nous renouvelle et nous donne une écoute sincère et honnête de tes mots. Amen. Jean 4, versets 1 à 6. Très chers amis, ne croyez pas tous ceux qui prétendent avoir l'Esprit Saint. Mettez-les à l'épreuve pour vérifier si l'Esprit qu'ils ont vient de Dieu. En effet, de nombreux faux prophètes se sont répandus dans le monde. Voici comment vous pouvez savoir qu'il s'agit de l'Esprit de Dieu. Toute personne qui reconnaît que Jésus est réellement devenu homme a l'Esprit de Dieu. Mais toute personne qui refuse de reconnaître Jésus n'a pas l'esprit de Dieu, mais celui de l'adversaire du Christ ou antéchrist. Vous avez appris que celui-ci allait venir et maintenant il est déjà dans le monde. Mais vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez vaincu ces faux prophètes, car l'esprit qui agit en vous est plus puissant que l'esprit qui domine le monde. Ces gens appartiennent au monde. Ils parlent donc à la manière du monde, et le monde les écoute. Mais nous, nous appartenons à Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, et celui qui n'appartient pas à Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous savons où est l'esprit qui révèle la vérité et où est l'esprit qui égare. William, il faut te taire maintenant, ou alors tu vas à l'école du dimanche. Merci. Alors peut-être qu'après une lecture pareille, vous commencez à vous poser des questions. Oula, quel esprit m'anime? Suis-je influencé par un esprit mauvais? Ou est-ce que je me trompe à propos de mon salut? Ou d'autres questions de ce genre. Alors pour vous rassurer tout de suite et vous rappeler les événements qui ont poussé Jean à écrire cette lettre, souvenons-nous que cette église à laquelle Jean écrit a subi une division, un conflit. Laissant derrière elle une communauté blessée, fragilisée par des doutes. Et Jean écrit pour rassurer l'Église en disant que, ceux qui ont quitté l'Église, ceux qui se sont séparés de vous, n'étaient pas les enfants de Dieu. Il écrit ça exactement au chapitre 2 de sa lettre, quand il dit « Mes amis, c'est l'heure dernière. Vous avez entendu dire que le Christ a des adversaires à venir. Or, maintenant, il y a de nombreux adversaires. Nous savons que c'est la dernière heure, ces gens nous ont quittés, ils n'étaient pas vraiment des nôtres. En effet, s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. » Le propos de Jean n'est donc pas d'exciter les chrétiens à se juger les uns ou les autres, à se poser des questions pièges pour faire le tri entre le bon grain et l'ivraie, de fabriquer une église pure, de croyants purs. Plutôt, il cherche à rassurer la communauté blessée que l'épreuve est terminée et qu'ils ont triomphé. C'est ce qu'il dit un peu plus loin en disant, mais vous, petits enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes. Donc résumons. Au sein d'une communauté chrétienne, il y a une voix dissonante qui s'est élevée, un discours différent de celui des apôtres. Deux camps sont apparus dans l'Église, mais les deux déclaraient « Moi, je suis chrétien. Non, c'est moi qui suis chrétien. » Comment distinguer? Qui écouter? Comment savoir? Et Jean avertit en disant « Ne croyez pas tous ceux qui prétendent avoir l'Esprit. Mettez les esprits à l'épreuve pour vérifier si l'Esprit qu'ils ont vient de Dieu. » Alors, sommes-nous capables de voir? Est-ce qu'il existe des détecteurs, des tests pour savoir si quelqu'un a réellement l'Esprit de Dieu ou pas? Non. Nous ne pouvons pas juger, nous ne pouvons pas discerner de cela, ni avoir cette prétention. Et je vous prie de me croire que les églises où l'on affirmera pouvoir trancher nettement entre les vrais et les faux, je crois, elles seront dangereuses pour vous. Il n'y a qu'une manière fiable de savoir ce qu'il y a dans le cœur de l'humain, c'est de juger ce qui sort de ce cœur. Jean, à ce titre, propose un test qui n'est pas universel, mais qui correspond à l'Église qu'il est en train d'accompagner. Il écrit « Voici comment vous pouvez savoir, par exemple, s'il s'agit de l'Esprit de Dieu. Toute personne qui confesse, qui reconnaît que Jésus-Christ est réellement devenu un homme, a l'Esprit de Dieu. » Face à ce que sa communauté traversait, Jean propose ce test. Reconnais-tu que, en Jésus, Dieu est devenu un humain? À travers cette question, Jean pose une vérité chrétienne fondamentale et considère qu'elle permet, face à ce que cette Église affronte, de clarifier les enjeux. Celui qui croit, qui sait que Jésus est devenu un homme, est habité par l'Esprit de Dieu. Celui qui juge impossible que l'homme, appelé Jésus, soit le Fils de Dieu, ou celui qui juge impossible que Dieu choisisse de devenir un humain comme nous, n'a pas l'Esprit, dit Jean. Et quelque part, ça reste vrai de nos jours. Si quelqu'un affirme être un disciple du Christ, donc un chrétien, mais qu'il ne croit pas en la nature divine de Jésus ou en l'incarnation de Dieu, eh bien, je crois qu'il se leurre en affirmant qu'il est un chrétien, du moins dans la portée spirituelle du mot. Peut-être, même pas peut-être, nous devrions accepter qu'il se qualifie de chrétien dans le sens culturel du terme, traditionnel, mais pas dans sa portée spirituelle. Voilà pour le passage que nous venons de lire. Mais je voudrais ouvrir une réflexion qui va un peu plus loin. Jean challenge son Église dans cette exhortation. « Très chers amis, ne croyez pas tous ceux qui prétendent avoir l'Esprit Saint. Mettez à l'épreuve les esprits qu'ils ont. » Une traduction plus littérale du texte donnerait ceci. « Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez si les esprits viennent de Dieu. » Il ne s'agit pas tant des gens que de leur esprit qu'il faille éprouver. Alors, encore une fois, je veux vous rassurer, même si Jean apparaît comme relativement binaire avec deux camps, ceux qui sont animés par l'Esprit de Dieu puis ceux qui ne le sont pas, cela n'implique pas que tous ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu sont possédés par des esprits mauvais, choses comme ça. Simplement qu'ils ne sont pas inspirés par l'Esprit de Dieu comme nous. Pour vous aider à comprendre ça, penchons-nous sur le mot « esprit ». Il vient du latin « spiritus », qui lui-même vient du grec « pneuma ». Ce mot peut aussi bien qualifier le vent, le souffle, que l'esprit. Et rapidement, les Grecs ont associé ce mot à l'étincelle de vie de l'intérieur du corps, voyant bien que lorsqu'on arrête de respirer, on meurt. Mais aussi, leur idée du souffle était profondément liée à l'idée de la parole, du discours. Dans votre esprit, vous formez de la pensée en mots, plus vous avez de mots, plus vous pouvez avoir une pensée qui est fine. Et une fois que ma pensée est formée avec mes mots, je veux la transmettre à quelqu'un d'autre. Les Grecs disaient « je vais frapper l'air avec ma langue, je vais façonner l'air avec ma langue sur mes dents, sur mon palais, avec mes lèvres, pour forger un langage qui va passer de mon esprit, là actuellement, au vôtre. Je forge l'air de sorte qu'il soit porteur de sens, de langage, d'un discours. Mais pour parler avec ce souffle, ce pneuma qui sort de moi, j'ai besoin d'inspirer. Inspirer, expirer, bref, respirer. Et vous savez qu'en français, comme dans d'autres langues d'origine gréco-latine, le mot « inspiration » ne signifie pas uniquement « faire rentrer de l'air dans les poumons ». Lorsque nous affirmons que les Écritures saintes sont inspirées de Dieu, nous ne pensons pas qu'elles sont gonflées par Dieu comme un ballon de baudruche. Nous pensons que Dieu a rempli ses Écritures de sa pensée en inspirant les auteurs. Maintenant, si je repose la question, quel esprit vous anime ? Peut-être est-ce que vous voyez mieux où est-ce que je veux en venir. Certes, je crois que l'Esprit de Dieu est en moi et qu'il vit en moi et qu'il me ressuscitera au dernier jour. Amen. Mais mon inspiration spirituelle, elle est comme mon inspiration physique. Je respire tout le temps, même quand je dors, et je m'inspire aussi tout le temps dans ma vie. Un jeune chrétien me disait un jour, « Ah, je stagne dans ma vie spirituelle, je n'avance pas. » Je comprenais ce qu'il voulait dire. Ma relation avec Jésus ne grandit pas, mon chemin sur la maturité chrétienne n'avance pas non plus. Pourtant, je lui ai dit ceci, « Il est impossible que tu ne grandisses pas spirituellement. » Impossible. Pas plus qu'il est possible de vivre sans respirer. Nous sommes toutes et tous soumis constamment à un flot de pensées, de discours, de messages, de proclamations, d'affirmations, d'informations, de positionnements, de déclarations par les réseaux sociaux, par la radio, par la télévision, par les journaux, par les romans, par les séries, par les émissions, par les jeux, par les films, par tout ce qui contient du langage. Qui véhicule une pensée qui nous impacte dans notre chemin spirituel. La question est la suivante, quelles sont les pensées qui m'inspirent ? Car les pensées que j'inspire seront celles qui me feront grandir spirituellement. Alors, bien sûr, quand je parle de grandir spirituellement, je ne suis pas en train de dire de grandir toujours à l'image de Jésus. Si j'écoute telle émission de radio ou tel podcast 8 fois par semaine, ben, en fait, je choisis que la pensée qui habite cette émission de radio ou ce podcast ou ce truc-là m'inspire et façonne mon discours, mon langage, ma pensée. Je le veux, en fait, puisque j'écoute ça 8 fois par semaine. Ça me plaît. Et donc, si j'inspire beaucoup de ci et de ça, ça va venir façonner ce que je suis. Et quand vous m'entendrez parler, si vous aussi vous connaissez cette émission, par exemple, vous allez faire « Ah, toi tu regardes ça, non ?» Parce que ça va même imprégner mon langage, mes anecdotes, mon discours, et donc vous saurez quel esprit m'inspire. Car pour parler, nous devons tous inspirer de l'air, et pour penser, nous devons tous inspirer de la pensée. Ainsi, Jean écrit que ces personnes qui ont blessé l'Église et qui l'ont quittée étaient inspirées par le monde. Il dit, ces gens appartenaient au monde, ils parlaient donc à la manière du monde et le monde les écoutait. Ils chérissaient ces pensées de sorte qu'ils refusaient les pensées du Christ. Mais nous, Jean dit, nous appartenons à Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute et celui qui n'appartient pas à Dieu ne nous écoute pas. Bon, ce serait formidable si Jean était en train de dire maintenant que vous avez l'Esprit de Dieu, vous êtes infaillible. Et si eux, ils ne sont pas d'accord avec vous, c'est parce que c'est eux qui se trompent et vous n'avez pas tort. Non, non. Ce qu'il veut dire par là, c'est que lorsque nous parlons de la part du Seigneur, lorsque nous nous laissons inspirer par le Seigneur, ceux qui nous rejettent, ce n'est pas nous qui rejettent, c'est le Seigneur. Nous ne sommes pas infaillibles et nous pouvons parfois refuser de nous laisser inspirer par l'Esprit de Dieu. Nous pouvons choisir d'être inspirés par d'autres esprits. Mais vous connaissez l'Esprit de Dieu. Vous le connaissez. À vous, votre responsabilité de vous laisser inspirer par lui pour l'expirer autour de vous. Cet esprit, je pourrais prendre le temps de le caractériser. Je vous lis quelques traits caractéristiques de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas un esprit de servitude, mais un esprit d'adoption, Romains 8. Ce n'est pas un esprit de violence, mais un esprit de douceur, Galates 6. Ce n'est pas un esprit de stupidité, mais de sagesse, ni un esprit de secret, mais de révélation, ni un esprit d'ignorance, mais de connaissance, Éphésiens 1. Ce n'est pas un esprit de timidité, mais de force. Ce n'est pas un esprit de haine, mais d'amour, de Timothée 1. Ce n'est pas un esprit de dispute, mais d'unité, Jacques 3. Ce n'est pas un esprit de mort, mais un esprit de vie, Apocalypse 11. Bon, la liste pourrait être longue. Esprit de grâce, de conseil, de force, de vérité. Alors nous ne sommes pas les seuls, nous les chrétiens, à nous inspirer de l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint a créé le monde entier, et il fait encore exister le monde entier aujourd'hui, et Dieu est généreux, et il a envie de donner ce qu'il a de meilleur, et donc même les non-chrétiens, je pense, puisent dans ses réserves. Mais nous le connaissons, comme je connais un ami. Je reconnais sa voix, comme je reconnais la voix d'un de mes proches. Moi, je n'ai pas d'excuse. J'ai une responsabilité. Alors, nous sommes appelés à inspirer de lui, comme on inspire de l'air. Plus nous inspirons de lui, plus il habitera nos pensées, et plus son inspiration va façonner tout notre langage et toute notre manière d'être auprès des autres. Comment on s'inspire de lui? Alors, vous allez tous me dire, par la lecture de la parole de Dieu. Amen. Mais je vais être franc avec vous, je suis convaincu que ce n'est pas la meilleure méthode. Je crois que la meilleure méthode, c'est la communion fraternelle. Je ne connais pas de lieu d'activité plus féconde pour démêler la pensée du monde de la pensée de Dieu que de se confronter à des frères et des sœurs en Christ. Ah. Je prends une grenade, je balance le conflit israélo-palestinien au milieu de l'église, là. Allez, c'est parti, on a une heure. Et vous allez voir qu'en fait, si on a à cœur de dire, ok, notre mission c'est douceur, amour, unité, vérité, patience, humilité, hein, ça c'est le plus important que de savoir si c'est pro-palestinien ou pro-israélien ou machin truc, tu vois. Et bien là on va apprendre à démêler la pensée du monde et la pensée de Dieu. Mais tout seul, chez soi, devant sa tablette, trop facile. Moi, je connais la pensée de Dieu, il est d'accord avec moi. C'est pratique d'ailleurs. Vous savez, j'aime bien citer ce passage, je le fais souvent, mais parce qu'il me fait trop marrer. Gédéon arrive devant une ville à conquérir, avec son armée de gars là, et en face, la ville et tout, ils sont fortifiés, il y a une armée aussi. Et là, il y a un ange de Dieu qui apparaît, mais en puissance, en gloire, en armure, tout ça. Gédéon est impressionné et il pose la question à l'ange. Dans quel camp es-tu? Es-tu pour nous ou es-tu avec eux? Et l'ange le regarde, il fait « Non, moi je suis dans le camp de Dieu. Et toi ?» Et c'est intéressant comment il renverse la chose. Est-ce que Dieu est de mon côté ou est-ce que Dieu est du côté de mon adversaire? Non. La vraie question c'est « Est-ce que je reste bien moi dans le camp de Dieu ?» Est-ce que je reste bien, moi, dans le camp de Dieu? Donc, je crois qu'il n'a pas de moyen plus sûr pour ne pas rester captif des mensonges, que ce soit des mensonges d'un groupe de chrétiens élitistes, autocentrés et orgueilleux, ou que ce soit des mensonges qui nous fassent sortir de l'Église, que de vivre une large communion fraternelle au corps du Christ. Et quand je dis large, je vous encourage à dépasser les murs de notre Église, à dépasser les murs de notre union d'Église, à dépasser les murs du protestantisme, à dépasser les murs de la France dans votre communion chrétienne, pour aiguiser votre pensée chrétienne. Chérissez vos relations chrétiennes, nourrissez-les, tissez-en de nouvelles. Vous élargirez votre horizon, vous sortirez peut-être des frères et sœurs de la solitude et de la souffrance, vous aiguiserez votre compréhension, votre inspiration de la pensée de Dieu. Et je conclue avec cette anecdote, pour boucler la boucle. À l'époque où le mot complotiste permet de désinguer une personnalité politique des émissions, parlons de conspiration. Ce mot signifie, en fait, respirer ensemble. Conspiratio, en latin, qui vient du grec sumpnoia, qui veut dire, là, par exemple, vous êtes complètement en train de conspirer. Parce que vous êtes tous dans la même salle, en train de respirer le même air, vous sentez l'odeur des uns et des autres, vous conspirez. Et je nous invite à conspirer ensemble, c'est-à-dire à inspirer tous à la même source volontairement qu'est le Christ. Et donc, devenons des conspirateurs de Jésus. Amen.